Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Ce matin, je voudrais partager une pensée que nous allons reprendre en deux fois. Et on donnera une suite. Mais ce que je voudrais introduire, c'est tout simplement les paroles d'un cantique que vous connaissez, que j'aime beaucoup, parce qu'il m'a marqué dans ma vie, où un chrétien, un enfant de Dieu, écrit ceci et s'est mis en musique. « Tu ouvres pour nous des voies merveilleuses. » Ouais, « Tu ouvres pour nous des voies merveilleuses. » Et il est répondu tout simplement, « Eh bien, Dieu, Jésus répond, des voies que vous ne connaissez pas. » Ou que si vous connaissez, et ça va être l'objet de notre méditation, que peut-être vous avez oublié, que vous avez négligé, et pourtant, c'est le principe du bonheur. C'est le principe de notre proximité avec notre Dieu. Et Jésus affirmera ceci en ce qui concerne ses disciples d'hier et d'aujourd'hui. Eh bien, nous adorons ce que nous connaissons. Oui, nous adorons ce que nous connaissons. Et il s'agit de l'esprit de la vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? L'esprit de la vérité, c'est véritablement le nom de ce que nous allons partager aujourd'hui. Vérité qui nous enseigne. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour nous enseigner? C'est tout simplement la parole de Dieu. C'est la personne et l'exemple de Jésus. Et c'est un des dons spirituels que Dieu nous a laissés, que l'on pourrait nommer la prophétie. On passe, et n'ayez pas peur, du naturel humain, dans ses faiblesses, dans ses crises, dans ses peines, dans ses insuffisances, au surnaturel de la révélation de Dieu. Alors, ce matin, dans votre prière immédiate, vous pouvez demander au Seigneur, enseigne-moi cette grande vérité. Oui. Vous savez, Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus baptise du Saint-Esprit. Et c'est ça ce que je voudrais vous dire, parce que nous constatons dans nos églises pentecôtistes, c'est un grand mot que j'aime à moitié, mais évangélique, parce que je crois que l'Église a besoin de retrouver ce souffle de l'Esprit à travers ce que nous allons voir. Et c'est véritablement, nous allons le découvrir, c'est un esprit de consolation, un esprit de force, un esprit de hardiesse. Parmi les dons vocaux, vous avez entendu parler de ça, parce qu'il y a un homme qui était un peu spécialisé, c'était l'apôtre Paul, qui a écrit une épître qu'on appelle l'épître, tout simplement aux Corinthiens, et qui nous en parle savamment. Ça, c'est pas seulement pour les gens religieux qui croient connaître mais qui ne connaissent pas, et c'est à travers des simulacres, c'est à travers finalement, là tout simplement une déclaration, doctrinale. On connaît la lettre, on connaît l'Église, mais on n'a pas fait l'expérience. Mais nous, c'est différent. Parce que Dieu nous a promis, lorsque nous nous sommes convertis, d'envoyer un feu, d'envoyer une flamme sur notre vie. Et c'est ce qui fait finalement, les capacités que nous avons dans nos églises évangéliques. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, dans les dons vocaux, je vais être très bref, mais c'est une introduction. Dans les dons vocaux, il y a la prophétie, qui est un don d'inspiration immédiate. Voilà, quelque chose qui nous touche au plus profond de nous-mêmes, dans notre cœur, c'est-à-dire le sentiment, l'affect, dans notre âme, notre volonté, notre intelligence, et puis qui nous touche, là, dans cette sphère. Parce que c'est vrai que Dieu nous a créé corps, âme et esprit. Et c'est là-dessus que je voudrais finalement... Et il y a trois articulations de les dons vocaux. Il y a le parler en langue, que vous entendez de temps en temps, mais de moins en moins dans nos églises. Et puis, il y a la prophétie parlée en français, dans notre langue verniculaire, notre langue naturelle. Et puis, il y a tout simplement son interprétation, où il y a un don spirituel. Et puis là, un don que nous ne connaissons pas, le parler, naturellement. Et puis, il y a également, eh bien, cette, non pas cette traduction, mais cette interprétation. Le don spirituel, ce n'est pas une traduction quand il est... Ce n'est pas une traduction, mais c'est une interprétation, tout simplement, qui doit être donnée par quelqu'un d'autre, ou la personne qui a donné. Je ne veux pas être compliqué, hein, mais je vais revenir à des choses beaucoup plus simples. Et puis, il y a les dons de puissance, qui sont les suivants. La foi miraculeuse, la guérison miraculeuse, et également, tout simplement, les miracles. Le don de foi, le don de guérison, le don de miracle. Et puis, il y en a un troisième. Et là, c'est véritablement, nous touchons le ciel, en quelque sorte, ce que nous ne connaissons pas, mais nous allons savoir à travers ce cette troisième catégorie, c'est le don de révélation, que l'on peut nommer tout simplement, et bien là, la sagesse, qui n'est plus une sagesse humaine, que Dieu nous révèle. C'est également la connaissance des choses qui sont ignorées, que les hommes ne peuvent pas comprendre, mais qui, finalement, et bien, viennent et surgissent pour nous donner la connaissance d'une chose ou d'une personne, finalement, et puis de bien d'autres choses qui nous sont révélées. Et puis, il y a également le don du discernement, c'est-à-dire le divin, le malin et également l'humain. Bon, j'arrête là, mais je continue quand même. Alors, on va ouvrir un texte dans notre Bible. C'est ce qu'on apprend aux futurs pasteurs, hein, tout ça. Et pourtant, c'est dommage, il y a quand même un recul dans tout ça. Alors, dans le psaume, ouvrez le livre des psaumes au chapitre 32. Il est dit ceci, c'est Dieu qui dit cela, et c'est un cantique de David, 32, verset 8, Dieu dit, « Je t'instruirai, Dieu dit à David, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Oui, tu ouvres pour nous des voies merveilleuses, Seigneur, et vous allez voir. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi, et ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, afin qu'il ne s'approche point de toi. Ça, c'est, pourrait dire, finalement, le condensé de ce que nous allons voir maintenant. Alors, dans 1 Corinthiens que je vous ai cité tout à l'heure, au chapitre 14, il est dit, et ça c'est la substance, c'est, on peut dire, l'architecture de ce que nous allons voir. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 1 à 4. Recherchez l'amour, c'est le fondement. Eh oui. Aspirez aussi aux dons spirituels, c'est ce que j'ai détaillé il y a quelques instants. Mais surtout, celui de la prophétie. Et on va voir pourquoi. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, parce qu'il ne peut pas être compris, puisque c'est une langue étrangère. Une langue antique, peut-être, qui ressurgit dans notre génération. Ou une langue qui est peut-être, finalement, et bien là, inconnue de nous, français, parce que, en principe, le français parle français. C'est mieux. Mais il parle à Dieu, car personne ne le comprend. Si moi j'entends du chinois, pour moi c'est de l'hébreu. Je suis perdu. Alors, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit quoi ? Des mystères. Ce sont des dons surnaturels. Il dévoile des mystères. Quand on voit qu'il y a, de par notre monde, des gens incroyants, incrédules, religieux, qui courent de droite et de gauche auprès d'un astrologue, auprès de gens de bonne aventure, enfin toutes sortes de choses, eh bien, moi je pense que c'est ça. Alors attention, il dit des mystères, mais des mystères qui viennent de Dieu, qui ne viennent pas de toutes sortes de facéties intellectuelles et sentimentales qui n'ont rien à voir, même si elles sont pieuses, même si elles sont religieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, c'est-à-dire à nous, aux hommes, aux chrétiens en particulier, quelquefois pour des païens qui vont véritablement à ce moment-là être bouleversés parce que c'est Dieu qui va leur parler, et il va leur parler de leur conversion, de leur repentance. C'est assez brutal hein, comme histoire. Hein. Il les édifie, une. Il les exhorte, deux, et il les console. Voilà la structure, mes frères et sœurs. Si vous voulez vous développer dans la vie spirituelle, eh bien vous allez apporter à l'Église l'édification, et puis également l'exhortation et la consolation. C'est le but. Vous avez tous un rôle, les uns et les autres. Ne dites pas, je suis un petit chrétien et je n'ai pas grand-chose, je ne connais pas la Bible et tout ça. Dieu peut se servir de chacun d'entre vous. Amen. C'est formidable. Et vous l'avez. Hein. Si vous le voulez, si vous le cherchez, recherchez finalement en priorité la prophétie. Vous avez. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, et nous savons ce qu'il en est, parce que on peut prier dans sa voiture, en langue, on peut prier dans sa chambre, on peut prier dans n'importe quel endroit, seul. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et là, ça se fait en français. Mais le parler en langue, eh bien, il s'édifie lui-même. Moi, je voudrais vous livrer une petite anecdote en ce qui me concerne et en ce qui concerne certainement tous les pasteurs. Moi, je ne pourrais pas prêcher comme je prêche. Hein. Si véritablement, je n'étais pas préparé, quelques minutes, ou quelques demi-heures, ou quelques heures, comme on l'a fait, ou comme on le fait encore, pour véritablement me remplir de la pensée de Dieu. Amen. C'est ça, justement, ce que nous allons voir. Alors, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise, c'est-à-dire il parle en public, il édifie l'Église. Combien de fois nous avons entendu, certes, à travers un message audible, compréhensible, mais combien de fois nous avons entendu une prophétie où Dieu nous a parlé directement. Et là, on s'est dit, mais Seigneur, il y a quelque chose. Mais Dieu sait tout. Il est omniscient. Et peut-être vous avez prié dans la semaine en disant, Seigneur, parle-moi dimanche prochain. Peu importe le prédicateur, peu importe le messager, parce que Dieu peut se servir de tout le monde. Et là, se dire, Seigneur, je te prie, je voudrais avoir une réponse. Je voudrais avoir véritablement, eh bien, à la fois, cette parole qui va me consoler, qui va m'exhorter, qui va m'édifier. Oui, c'est personne à personne, là, à ce moment-là. Et puis, nous l'avons vu tout à l'heure, il nous est dit que celui qui prophétise édifie l'Église. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Formidable. Moi, j'étais baptisé du Saint-Esprit quand je me suis converti en 1972. Enfin, j'ai pas dit 1800, j'ai dit 1972. Et c'est vrai que bon, le Seigneur m'a appelé à faire ce que je dois faire, c'est modeste, c'est vrai. Mais je pense que c'est quelque chose qui devrait être encore beaucoup plus répandu dans nos églises de réveil. On l'a eu, on l'a plus, ou on l'a si peu. Alors on va aller un peu plus loin. Nous avons devant nous un regard sur l'un des dons du Saint-Esprit que Dieu a donné à l'Église. Je le rappelle, c'est la prophétie. Ce que nous ne savons pas. Ce que nous ne connaissons pas, non pas par privilège parce que nous sommes des chouchous de Dieu, non. C'est parce que finalement, eh bien Dieu nous a donné un don qu'il faut exercer. Voilà. Qu'il faut exercer, et nous allons voir deux choses. Le but de la prophétie et son utilité. On l'a déjà dit, hein, tout simplement. C'est l'édification, c'est l'exhortation et la consolation. Je relis. Et qui nous donne finalement l'instruction de ce que Dieu veut nous faire passer. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Quelquefois, nous sommes dans la grande perplexité de savoir ce qu'il faut faire. Et Dieu nous dit, je te le montrerai. Alors ne croyez pas que Dieu va vous apparaître comme ça un soir, hein, et puis devant vous, et puis vous parler comme ça. Non, 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 il a ses méthodes. Hein. Il a ses méthodes et il nous connaît bien dans notre fond intérieur. Et puis après, il est question de la direction et du conseil. « Je te conseillerai. » Et puis, il y a un troisième point, c'est la proximité ou sa divine présence. Tout simplement, « J'aurai les regards sur toi. » Donc, Dieu ne nous abandonne pas. il ne nous abandonne jamais. Dans la Bible, la prophétie est appelée charisme. Oui, charisma. Charisme, c'est-à-dire la faculté surnaturelle donnée à un enfant de Dieu, à un chrétien, à un homme chrétien né de nouveau. Ça, c'est important. Vous n'allez pas vous imaginer que l'incrédule, celui qui rejette Dieu, va avoir... Non, il les aura, mais dans le plan occulte, lui. C'est sur le plan occulte. Hein. Alors, un chrétien né de nouveau, selon... Vous pouvez, nous dit la parole de Dieu, vous pouvez tous prophétiser successivement. Vous rendez compte, un culte comme ce matin, où nous apporterions finalement eh bien, les uns et les autres, avec une limitation, parce que normalement c'est 2 ou 3 prophéties. Hein. Mais ça c'est le responsable du culte qui va diriger un peu les choses, de dire bon c'est bon, voilà, on a eu ce qu'il fallait, hein, parce que bon, autrement ça n'en finit pas, et puis quelquefois ça peut devenir un champ de foire. Hein, parce qu'il y a des normes. Il est question d'avoir un comportement de bienséance et d'ordre. On en reparlera. Alors, nous voyons qui nous est dit, c'est la parole. Vous pouvez tous prophétiser afin que tous soient instruits. On ne sort pas d'une réunion de culte où il y a la vie de l'esprit, où il y a ces manifestations où Dieu nous parle par sa parole, par le pasteur, mais qui nous parle également par les prophéties, qui nous parle par la parole de cette manière. Eh bien, nous voyons que nous pouvons tous être instruits et exhortés, et en sortant en disant « mais je me suis fait du bien ». Combien de fois je me suis posé la question quand j'ai vu des frères et des sœurs sortir après un culte en pleurant. Mais non, c'est pas ça les cultes. Vous êtes peut-être arrivé en pleurant, mais vous devez partir parce que Dieu vous a parlé, Dieu vous a touché, et Dieu vous a montré sa tendresse et son amour. C'est ça ce qu'il faut dire. Alors, je vais au culte, mais je vais pour passer mon temps, et puis je vois mes sœurs et mes frères. Non, mais c'est une famille, hein, ça c'est sûr. Mais ça doit véritablement retenir la grâce que Dieu vous donne à chaque instant. Ça, c'est essentiel, tout simplement. C'est une faculté de parler au nom de Dieu, la prophétie, sous l'inspiration du Saint-Esprit. « Ah ouais, cette semaine j'ai une petite idée. Alors, dimanche prochain, je sortirai un petit truc à ma façon. » C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que si vous l'avez le lundi pour le dimanche, ben moi je veux dire que le pain est rassis. Hein. Je vois que ça vous intéresse quand même. Alors, donc, le message ne provenant pas de l'intelligence humaine, composé par le savoir, même l'expérience humaine, ni d'une préparation savante, c'est ce que je disais tout à l'heure en disant ben, lundi, mardi, il faut absolument que je sache ce que je vais dire, hein. Mais c'est quelque chose de spontané qui arrive au moment du culte, ouais. Au moment où là nous sommes rassemblés, et nous voyons que dans la première église que nous trouvons dans, en effet, l'évangile, le don de prophétie était courant. Ouais, c'était quelque chose. Et on a vécu des manifestations cultuelles ou des grands rassemblements où là, il y avait quelquefois 500 et davantage de personnes. C'était extraordinaire. Soit des prophéties directes en français, soit un parler à langue qui était finalement traduit. Mais c'est quelque chose de formidable. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur se manifeste surnaturellement au milieu de nous. Croyez encore que c'est possible. Ne venez pas par habitude. Hein? Mais nous venons parce que véritablement nous avons besoin de quelque chose et de le recevoir, non pas dans la simple communion fraternelle, parce que nos frères vont nous faire du bien, ils vont nous encourager, mais parce que Dieu est au milieu de nous et personnellement il va nous faire du bien. Ouais. Faut pas l'oublier lui. Hein? Mais je ne le vois pas. Eh ben, c'est très bien que vous ne le voyez pas. Vous seriez capable de repartir avec une statue sous vos bras pour l'adorer chez vous. En plâtre. Voilà. Alors, tout ça, ce sont des... Nous voyons que ce qui est important, la prophétie pourrait émaner de faux prophètes. Et il faut en parler. Parce que les faux prophètes, ça court partout. Ça, c'est comme, finalement... hein, les termites et puis tout ça. Hein. Ça court partout et ça grignote, ça induit en erreur, ça nous donne toutes sortes de pensées, toutes sortes de choses qui sont pas bonnes. Alors les faux prophètes et d'un mauvais usage de ce don. Ce qui a, en effet, eh bien là, détruit, peut détruire, nous pouvons dire, un solide enseignement, le solide enseignement apostolique, afin de recadrer, et c'est là que nous devons intervenir et avoir le discernement, toute dérive possible ou exagérée. Ça, c'est la responsabilité de chacun, quand on sent que ça commence à partir. On l'a vu, hein, combien de fois dans des réunions, où là, eh bien, à un moment donné, il y a tellement de mysticisme, tellement de, comment dire, d'originalité, tellement de vouloir se mettre en avant en disant « Moi, j'ai les dons spirituels, mais vous n'avez rien du tout. C'est le Seigneur qui a tout. Et s'il veut servir de vous, il va servir de vous. S'il veut vous écarter, il va vous écarter. Bien sûr. Mais il cherche des hommes crédibles, des hommes fiables, des hommes de vérité qui ont à cœur la vérité. Ça, c'est essentiel. Le mauvais usage, les faux prophètes, et ça nécessite, comme nous le faisons ce matin, eh bien, là, on pourrait peut-être le dire, un solide enseignement apostolique, et c'est ce que je fais ce matin. Oui. Afin de reclarer, je l'ai dit, toute dérive possible, exagérée. La tentation a toujours été forte, et peut-être même très forte, de dire ce que nous croyons être la volonté de Dieu. Dieu m'a montré sa volonté. Bon, bien, ça peut arriver. Ça arrive. C'est même, certainement, peut-être plus que probable. Mais n'allons pas nous vanter que nous avons à nous tout seuls la volonté de Dieu. Hein? Ah oui, oui, tu sais, je comprends, naturellement, etc. Mais moi, j'ai reçu quelque chose de supérieur. Ça s'appelle quoi? De l'orgueil. Tout simplement. Je veux que vous compreniez quand même. Hein? Et nous voyons que croire à cette volonté absolue pour nous-mêmes, divine, et puis pour les autres, et de parler à tort en son nom, nous le verrons dans les textes tout à l'heure. Mais au nom de Dieu, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Vous allez voir la réponse de Dieu. C'est pas triste. Alors que toute autorité et crédit doit être revêtue et doit revêtir celui qui déclare solennellement ce que Dieu a dit ou ce qu'il montre. Ce que Dieu dévoile et veut au point que celui qui est l'agent de cette parole, de cette transmission, de cette communication, supplante le message de son véritable inspirateur. On se prend pour Dieu, on parle au nom de Dieu, alors que Dieu n'est jamais dit. C'est ça les faux prophètes. Pour se donner de l'intérêt, pour se rendre populaire, en disant monsieur et madame, chrétien naturellement, hein, voilà, vous savez, c'est quelqu'un de formidable, hein, parce que c'est vraiment le prophète au milieu de nous. Hein. Ça craint l'asile psychiatrique. Hein, là. Parce que là, c'est du mysticisme, hein, de toute façon. Voilà. Parce que le véritable inspirateur, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Tout simplement. Mais il faut bien faire attention parce qu'il peut y avoir un danger dans tout ça. Là, c'est le danger du canal humain qui prophétise. Ouais. Vous savez, la prophétie, il est dit, quand vous prophétisez dans un culte, eh bien que deux ou trois juge. Et vous allez voir le frère. Vous n'allez pas dire, mais qu'est-ce que tu as raconté? On va te mettre à la porte, etc. Non, il faut le faire avec délicatesse. Il faut le faire avec tact. Il faut le faire avec amour, avec charité. Parce qu'une chose qui est certaine, c'est que il faut savoir le discerner d'abord. C'est pour ça qu'il y a l'autre don de révélation, naturellement. Hein, le canal humain qui prophétise. Alors, il faut beaucoup de modestie, mes frères, quand on touche à ce sujet. De discrétion, voire une grande humilité. Oui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit le Seigneur. Oui. Vous êtes des serviteurs inutiles. Et c'est peut-être un honneur de pouvoir prophétiser, et bien prophétiser dans une église. Mais ne nous prenons pas la tête. Ne nous prenons pas la tête. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est pas un mérite. C'est ppas parce que vous êtes chrétien depuis 70 ans que vous êtes en avance sur les autres. Il faut déjà le faire. Hein. C'est que Dieu nous supporte bien si on en a jusqu'à ses 70 ans. Et voilà, c'est bien. Ainsi, les apôtres ont dû, tout tout simplement fonder la foi chrétienne sur l'enseignement précis, en recommandant un bon usage. Il ne faut pas que ça soit la foire d'empoigne dans un culte. Il ne faut pas que les uns et les autres se contredisent, parce qu'il peut y avoir plusieurs prophéties. Elles se contredisent. Et la prophétie, elle n'est pas pour répondre à l'autre qui prophétise, pour régler leur compte, parce qu'ils ne sont pas d'accord ensemble. Brrr. Non mais ça vous fait rire, hein, mais vous savez, on le voit quelquefois. On le voit, hein. Nous, on a vu des choses qui n'étaient pas tristes, hein. Se dire le contraire. Dieu dit par l'un, et puis il est dédié par l'autre. Non. Le Seigneur, lui, dit la vérité exacte. Et il va pas, voilà, tout simplement. Vous connaissez ce que je veux dire. Alors, il faut sanctionner les abus et les excès en la matière. Et ça, c'est le travail des anciens, mes frères, anciens, de l'expérience. C'est pour dire que tous les anciens, ils ont des barbes blanches, hein, c'est pas ça. Hein. Il peut y avoir des anciens de 20 ans, hein. Voilà, peut-être un peu plus, mais bon, toujours est-il. Et puis c'est le pasteur qui doit gérer ça aussi. Moi, ça m'est arrivé, je le fais jamais publiquement, mais discrètement, pendant qu'il y a la louange, je vais voir la personne. Oh, c'est pas vous, hein, je vise personne ici. Hein. Mais je vais voir la personne, je me mets à côté d'elle. Alors qu'elle est assise sur sa chaise, et puis je lui susurre quelques mots, hein, parce que bon, soit elle fait trop de bruit, soit elle gesticule, hein, soit elle articule toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec eux. Alors à ce moment-là, elle s'arrête, parce que c'est le pasteur qui lui dit. Voyez l'autorité que j'ai. Revenons à l'humilité. Non mais, faut faire, parce que quand il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus d'ordre. Et ça, c'était dans l'Ancien Testament. Il y en avait des choses. Relisez l'Ancien Testament, vous allez voir. Et encore, c'était la loi. Maintenant, nous sommes sous la grâce. Et les choses ont quand même un petit peu varié. Alors, il faut en recommander le bon usage, la modération. Et parce que si nous ne le faisons pas, ça ne peut que porter préjudice à ce don excellent dont il nous est parlé, au risque de le discréditer complètement. Écoutez ce que nous dit Thessaloniciens. N'éteignez pas l'esprit. Vous l'avez lu, ça. Et quelquefois, il y a des pasteurs, il y a des conducteurs spirituels qui disent maintenant, allez, tout ça, on n'en parle plus. Hein, c'est des choses qui troublent les églises. Non, n'éteignez pas l'esprit. Même si quelquefois ça vacille encore, ne l'éteignez pas. Parce que c'est Dieu qui l'a donné pour l'édification, la consolation. Toutes sortes de choses que nous avons vues. Mais examiner toutes choses, il faut réfléchir, hein, quand on doit porter une appréciation, qui vient une appréciation sur les dons spirituels, et retenez ce qui est bon, et ce qui est mauvais, rejetez-le. Oui, il faut. Alors en somme, attention, si nous avons cette tendance à éteindre l'esprit, à mépriser le Saint-Esprit, à examiner d'une manière un petit peu critique. Et il faut à ce moment-là, eh bien, retenir, comme nous l'avons dit, pour reconnaître, pour distinguer l'authenticité de ce qui vient de Dieu par voie prophétise. Et je voudrais ouvrir maintenant un petit paragraphe tout simple. Nous allons parler des considérations bibliques, sachant que rien n'est parfait. Même la prophétie. La prophétie par elle-même, elle est parfaite, elle vient de Dieu. Mais la manière dont elle transvase par nous. La manière, parce que nous avons un langage, nous avons éducation ou pas d'éducation, nous avons finalement toutes sortes de choses, des manières de faire. Donc, c'est jamais d'une perfection totale, naturellement. Mais néanmoins, il y a quand même quelque chose à retenir. Quelques considérations bibliques. Sachant que rien n'est parfait, gardant à la pensée que ce qui vient de l'homme est souvent faillible. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire d'un frère ou d'une sœur qui donne des bonnes prophéties, d'en faire un homme supérieur. Oui. Un tel, vous savez, dans notre église, il est formidable. Il est notre prophète. Oui. Elle voit, ça finit mal, les choses. Parce qu'à un moment donné, s'il est orgueilleux, ben Dieu va permettre qu'il tombe dans un piège. Oui. Qu'il tombe. Voilà. Restons des petits enfants. Seigneur. Et vous savez que Jésus a parlé par les petits enfants. Et il a parlé d'eux aussi, d'ailleurs. Donc, il faut garder cela à la pensée. Et nous voyons, par contre, Dieu, et je le marque, Dieu ne se trompe jamais. Il ne serait pas Dieu. Il ne serait pas Dieu. Donc, discerner, apprendre à discerner en priant Dieu, donne-moi de discerner la vérité, Seigneur, et l'authenticité des choses qui se passent à travers les dons spirituels dans mon Église. Rappelons certains principes essentiels, tout simplement. La parole de Dieu demeure le critère objectif et véridique. Il faut toujours revenir à la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, et particulièrement dans le Nouveau Testament, qui est quand même la dimension, eh bien, non seulement du surnaturel comme l'Ancien Testament, mais de la grâce, de l'Esprit de la grâce. L'Esprit qui est véritablement révélé dans toute sa plénitude. Alors, le Saint-Esprit est unique, il est unique, témoignage de la vérité, et que les circonstances révèlent toujours la providence de Dieu. Oui, Dieu nous fait du bien à travers les prophéties. Il peut nous parler de notre vie la plus commune, c'est-à-dire eh bien, la nourriture, les ressources économiques, enfin toutes sortes de choses, la guérison, le travail. Oui, ça c'est la providence de Dieu, hein, parce que Dieu coupe les fils et c'est fini. Hein. Qu'est-ce qu'on va devenir hein. Donc, d'abord, il nous parle de la providence. Et non du hasard, mes frères et sœurs, j'allais vous dire, cessez de croire au hasard. La grenouille dans le bocal. Ou alors vous êtes vraiment dans le bocal et puis... ça, c'est difficile d'y vivre. Hein, oui, mais il y en a qui sont encore restés avec des vieilles pensées. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Non. Il y a quelque chose qui n'existe pas au milieu de nous, c'est le hasard. Ce qui signifie qu'une conduite par les indications de nos propres pensées ne sont pas suffisantes. Ce n'est pas de faire des déductions en disant « mais c'est peut-être ça, et je dois me conduire de telle et telle manière ». Que les situations ne sont pas non plus absolument déterminantes à 100%. Il y a toujours une partie qui reste humaine, ouais, qui reste quelque part, eh bien, de notre part à nous, les hommes. Mais quand Dieu nous envoie les choses, il les envoie bien. Maintenant, la manière dont nous les recevons et les interprétons, c'est autre chose. Pour affirmer que, tout simplement, on est dans la volonté de Dieu et que la parole de Dieu a besoin d'être éclairée, c'est-à-dire rendue vivante à la lumière de l'Écriture qui ne se contredit jamais. Quand il y a des prophéties que vous avez un doute, à ce moment-là, ouvrez la Bible, prenez le registre finalement où il est question des dons spirituels, où il est question finalement de l'enseignement comme nous le faisons ce matin, et vérifiez les deux. La parole de Dieu qui dit ce que tu as dit, Dieu a donné des dons spirituels, et maintenant c'est à vous de les assembler pour voir si véritablement c'est cohérent tout ça. Vous savez, il faut se méfier dans nos temps, parce qu'il y a tellement de fausses, des fake news, des deep news, enfin il y a plus de fond hein, de toute façon dans le truc. Hein. Mais c'est vrai, hein. Faut faire attention, et nous avons à nous poser la question, parce qu'on est capable d'avaler avec l'intelligence artificielle. Je ne veux pas dire qu'il y a tout mauvais, mais derrière l'intelligence artificielle, il y a toujours des petits malins qui quelque part, et même dans le domaine des choses finalement de la foi. Hein. Alors si un jour vous me voyez à la télévision, hein, avec ma tête, mon corps, la présidence de la République, c'est pas moi, je me suis pas présenté. Eh ben non, parce que vous pouvez après m'envoyer des compliments, toutes sortes de choses. Sauvez la France, monsieur Ouvrard. N'y croyez pas trop. Bon. Ces trois indicateurs, la prophétie, l'écriture, et les circonstances, parce que ça, on ne vit pas dans un monde extraterrestre, hein. Les circonstances, eh bien, nous voyons que ça doit nous donner de l'objectivité et non pas nous renfermer dans la subjectivité, de faire un petit peu notre religion à nous, de dire, voilà, le Seigneur m'a parlé, alors je vais aller dans ce sens-là. Non, de l'objectivité. L'objectivité, c'est la vérité, hein. C'est l'authenticité, tout simplement. C'est celle annoncée qui s'accomplit comme Dieu l'a dit et le veut. Et là, ça nous renvoie dans l'Ancien Testament, nous verrons tout à l'heure à travers quelques versets pour terminer, où Dieu dit, mais je ne les ai jamais envoyés, c'est là. Je leur ai jamais rien demandé. Et ils ont parlé en mon nom, et ils ont induit finalement mon peuple. On va le voir d'ici quelques minutes. Dans Deutéronome, au chapitre 18, écoutez bien. Si vous voulez tourner les pages avec moi, il est dit ceci. Deutéronome 18, et tout simplement au verset 20 et 21. Il dit ceci. « Mais le prophète, qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point demandé de dire, ou qui parlera au nom de d'autres dieux, ce prophète-là, vous lisez la suite, vous verrez, sera sanctionné sans puni de mort. Hein. » Ça, c'était l'Ancien Testament, c'était la loi. D'accord. « Ce prophète sera puni. Peut-être diras-tu dans ton corps, comme dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite ? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'a dite. N'aie pas peur. Ne crains pas ce prophète. » Dans 1 Jean, et ça c'est important aussi de le signaler, puisqu'on arrive dans la partie où on peut citer des preuves finalement de tout ça, dans Jean chapitre 3, et au verset 24, il est donné cette parole. « Celui qui garde les commandements de Dieu demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » De quel esprit parle-t-on ? L'Esprit souverain, le Saint-Esprit de Dieu, et non pas n'importe quel esprit qui traîne finalement dans les couloirs. Et puis on peut toujours ajouter chapitre 4 et verset, ça c'est une bonne réponse. Il est dit ceci, « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Éprouvez les esprits. « Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Reconnaissez ce qui caractérise bien l'Esprit de Dieu. On peut terminer par ceci. Une remarque pertinente, ce que Dieu sanctionne, c'est l'audace du prétendu prophète, mais l'important demeure l'accomplissement et non un verdict définitif, quelles que soient les explications alambiquées qu'il veut fournir pour se donner raison. Plus une prophétie est chargée de précision, comme on l'a entendu quelquefois même dans nos églises, où le prophète n'arrive jamais à s'arrêter, hein, 5 minutes, 10 minutes, et puis il saoule tout le monde. Hein. Ouais, ouais, ça c'est vrai. Hein. Et quelquefois, il faut aller le voir pour lui dire, on a compris. Hein, le calmer quelque part. Alors, plus cette prophétie qui traîne en longueur, hein, qui est pleine, chargée de précision en détails inutiles, parce que si Dieu veut vous parler, ça va être simple. Hein. Quelquefois, et vous allez comprendre. Alors, non seulement des détails inutiles et inexacts, plus elle engendrera dans ceux qui l'écoutent, c'est-à-dire les chrétiens dans le culte, eh bien, engendrera de confusion et de perplexité. Combien nous avons eu de frères et de sœurs ici et ailleurs dans les églises où nous sommes passés, qui venaient nous voir en disant, mais telle personne, tel chrétien m'a dit ceci et cela, mais je comprends pas, et depuis que j'ai entendu ça, je suis culpabilisé. C'est pas fait pour culpabiliser, c'est fait pour rassénérer finalement notre âme, nos idées, les éclaircir, etc., etc. Ah oui, alors quelquefois ça les fait pleurer pendant une semaine en disant j'ai entendu ça. Hein. Et puis c'était quelquefois finalement un terrible arbitraire, une discipline de fer qu'ils avaient entendu. Mais qu'est-ce que l'on veut ? On veut faire peur ? Non, on veut créer la foi. C'est ça, c'est créer et développer la foi tout simplement. Je finis la prophétie. J'ai pas été trop long. Non, non, vous me le dites, hein, parce qu'autrement, je reviens pas. Bon, la prophétie et ses conditions de réalisation. Conditions morales, parce qu'elle ne doit jamais être ridicule et provocatrice. On a entendu des choses, mes frères. Pas triste. Pas triste. Moi, j'ai eu un monsieur inconnu qui était venu dans l'église de Saint-Nazaire. Et puis, à un moment donné, pendant le service de louange, il a donné une pseudo-prophétie. Et puis, il disait devant tout le monde, c'était au moment de l'élection présidentielle, « Votez pour Sarkozy !» Bien ! Le pauvre Sarkozy a été battu. Donc, des choses qui n'arrivent pas. Oh non, mais c'était Patrice. Alors, moi, j'avais demandé à Patrick et puis à Ed Kader, je lui ai dit, « Tu vas lui enseigner un petit peu ?» Ils l'ont mis dehors. Non mais attendez, on en a vu des choses comme ça. Ou alors avec des précisions complètement farfelues, hein, en disant ben, « tu vas avoir un petit garçon, manque de peau, c'était une fille d'accouchement ». Alors là, c'est vraiment quelque chose qui... vaut mieux se taire. Mais c'était pour se mettre en valeur. Hein. J'en ai d'autres. Hein. Mais bon, on ne va pas passer la journée là-dessus. Voilà. Ridicule et provocatrice. Ça, mes frères qui géraient un petit peu l'église, ici, eh bien, il faut avoir ça. Parce que vous savez, il y a tout. Hein. Parce que si Dieu est à l'œuvre, si l'homme de bonne volonté veut dire la vérité, il y en a un qui va introduire son mensonge. Alors bon, il ne faut pas vous affoler. Hein, le Seigneur tient tout, hein, de toute façon. Mais à ce moment-là, il faut agir. Tout simplement. L'aboutissement n'est en aucun cas la glorification ou l'orgueil de celui qui prophétise. Plus le Seigneur nous a choisis pour être prophète occasionnellement, parce qu'il ne faut pas penser que c'est toute la vie, alors plus finalement les choses sont ainsi, plus, eh bien, on doit rester humble et modeste. Ouais. Parce qu'après, on va avoir des comptes à rendre. Oui, on va avoir des comptes à rendre, tout simplement. Le but est toujours l'obéissance de ce que nous avons perçu de la vérité de Dieu quand il nous parle pour le dire aux autres. Consoler, édifier, instruire. Voilà, tout simplement. Vous révéler, naturellement. Et moi, je crois que le but, c'est l'obéissance. C'est l'humilité, tout simplement. Dans Jérémie, j'ai trouvé quelque chose qui était pas mal, où Dieu était fâché. Hein. Vous allez voir. Ah ouais, ça peut arriver que Dieu soit fâché? Non, vous ne croyez pas, non. Et même dans le temps, hein, Jésus. Alors, Jérémie, chapitre 23, versets 21, 22 et 33. 21, 22 et 33. Alors, on va retrouver ça. Il est dit ceci. Je n'ai point envoyé ces prophètes. C'est Dieu qui parle, hein, par la bouche de Jérémie, qui était lui-même prophète. Hein. Et ils ont couru. C'était, comme vous savez, de la friandise. Ah oui, je suis prophète, je vais dire des choses extraordinaires et puis je vais me faire valoir dans l'église. Alors, ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Ils n'auraient rien fait de se taire. Parce que sinon, on n'entend pas tout. Le Seigneur entend tout. Bien. S'ils avaient assisté à mon conseil, donc la prière, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Il s'agit du peuple de Dieu, comme l'Église est le peuple de Dieu. Ils auraient dû entendre les paroles, ils ont confondu les paroles à mon peuple. Or, les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leur action, ne suis-je pas Dieu que de près, dit l'Éternel, ne suis-je pas aussi le Dieu de loin. Et au verset, tout simplement, 20, le suivant, c'est, voilà, le verset 32, vous tournez la page, j'en veux à ceux qui prophétisent des faux songes, des fausses prophéties, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité, eh bien, à ce peuple. Voilà, c'est la confusion, tout simplement. La prophétie s'accorde, parce qu'on redonnera une suite, hein, je ne vais pas faire une conclusion, on donnera une suite. La prophétie s'accorde-t-elle aussi avec la volonté de Dieu connue et exprimée? Oui. Il y a soit la concordance, ou tout simplement la contradiction. Mais c'est toujours la même chose. Dieu ne se trompe pas. Mais par contre, quand c'est entre les mains des hommes qui veulent... Vous savez, la religion a toujours été une source de pompe, d'orgueil, d'élévation, de dire nous sommes au-delà de toutes les situations humaines sur la terre. On le voit, hein, quand on voit la modestie du Vatican. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Je suis un petit peu acide, hein? Non? Oui, bah, personne ne me répond, donc ça doit être ça. Alors, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu contre la parole de l'homme. Moi, je préfère faire confiance à mon Dieu. Il m'a dit tellement de choses, il m'a parlé tellement de choses, il m'a fait tellement bien, il m'a consolé, il m'a guéri, il a fait tout pour moi. Je ne veux quand même pas le trahir. Hein. Ça, faut garder en mémoire, finalement, toutes les bonnes choses que Dieu nous a données. On ne va pas se tourner vers les hommes pour être roulé, finalement, eh bien, dans la farine, excusez-moi. Voilà. La reconnaissance et tout ça, tout ce que nous avons dit, c'est pour une juste et une bonne reconnaissance publique du monde, avec un bon témoignage, et puis dans l'Église, assurer la paix, assurer l'amour de Dieu, assumer l'amour de mes frères et de mes sœurs, et de pouvoir finalement, eh bien, avoir ce trésor, avoir finalement ces perles de grand prix que l'on appelle les dons spirituels, entre autres la prophétie. Dieu, tu nous parles, Dieu, tu me parles, et tu développes finalement ce don au milieu du peuple de Dieu, à Redon et à Saint-Nazaire. On prie pour ça, mes frères, que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité, parce que nous croyons que ça, c'est pas une histoire d'il y a 2000 ans, du temps de la première Église, l'Église primitive, comme nous l'appelons, du temps des apôtres, les apôtres que nous avons identifiés comme ceux que tu as choisis pour bâtir ton Église, et encore c'est Jésus qui bâtit, et tu te sers des hommes. Mais Seigneur, nous voulons te remercier et te louer, Seigneur, parce que nous croyons, Père éternel, que tu nous as donné de gérer un trésor, et que nous n'avons pas en effet à oublier que ce trésor, nous l'avons enfoui, comme le serviteur du roi. Non, nous voulons véritablement ne pas le renfermer dans une serviette dans la terre, mais nous voulons véritablement qu'il fonctionne, et que tu nous donnes toujours de plus en plus de dextérité spirituelle, de perspicacité spirituelle, et d'activité, Seigneur, par l'expérience, et par finalement, eh bien, les bonnes choses que tu as préparées pour nous, en Jésus-Christ. Tu veux que nous les accomplissions parce que tu nous as créés pour cela. Merci Seigneur pour les dons spirituels, pour la prophétie Seigneur, et bénis ton Église afin qu'elle se réveille par rapport à cette activité grandiose, parce qu'elle n'est pas de la terre seulement, mais elle est avant tout du ciel. Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Amen.